France Inter.
Bonsoir et bienvenue dans l'écho de l'été, où que vous soyez, chez vous, quelque part sur la route ou ailleurs. Chaque samedi de cet été, nous essayons de réfléchir aux grands enjeux économiques, ceux qui ont été les nôtres au cours de l'année écoulée, mais encore plus à ceux qui sont devant nous avec des invités. Et bonne nouvelle, nous avons du temps pour le faire, plus de 35 minutes. Ce soir, je vous propose un échange sur le transport aérien. Nous sommes dans des temps étonnants, l'avion reste plébiscité partout dans le monde et en même temps, on entend qu'il faut moins voler pour des raisons climatiques. Mes deux invités ce soir, pour en parler, sont Augustin de Romanet, PDG d'Aéroports de Paris, en France et Roissy, Orly, Le Bourget, mais pas seulement, et Karima Delli, députée européenne, écologiste, présidente de la Commission des Transports du Parlement européen.
France Inter, l'écho de l'été, Dominique Seux.
Bonsoir à vous deux. Bonsoir Augustin Romanet.
Bonsoir Dominique Seux.
Bonsoir Karima Delli.
Bonsoir.
Alors, pendant une petite dizaine de minutes, je vais interroger Augustin Romanet sur l'activité aérienne et son groupe ADP. Et puis ensuite, pendant 20 minutes, il y aura un échange avec Karima Delli sur la question climatique. Alors, Augustin Romanet, présentez-nous d'abord ADP. Vous dirigez ce groupe depuis plus de 10 ans. On passe dans vos aéroports, parfois on râle, parfois on est content, parfois c'est dans l'autre sens. Hein. On râle plus qu'on est content, ou l'inverse. Et on monte dans un avion d'une compagnie fabriquée le plus souvent par Airbus ou Boeing. Mais Aéroports de Paris, qu'est-ce que ce groupe public d'ailleurs ?
Oui, alors Aéroports de Paris, c'est un groupe public qui a mis dans ses statuts il y a 2 ans la raison d'être suivante. Accueillir les passagers et inventer l'aéroport de demain en France, dans le monde, de façon responsable. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le transport aérien, c'est quelque chose de récent dans l'histoire de l'humanité. Dans les années 50, il n'y avait quasiment pas de transport de masse. Songez qu'en 1960, il n'y avait que 100 millions de passagers dans le monde dans une année. Et ce nombre, c'est le nombre que nous accueillons à Paris avant le Covid, à Paris uniquement dans une année. Donc le transport aérien a été multiplié par 45 entre 1960 et 2019. Cette croissance exceptionnelle a conduit à créer un nouveau métier qui, de proche en proche, se rapproche de plus en plus de l'hôtellerie. Pourquoi ? Parce que ce nouveau métier, ça consiste à accueillir les passagers dans les bonnes conditions. Au début de l'aéronautique, un aéroport, c'était principalement un métier d'ingénieur qui construisait des pistes, des terminaux.
Décollage, atterrissage.
Et puis les passagers, c'était un peu un flux qu'on gérait un peu de façon indifférenciée. Progressivement est survenue d'une part la massification avec des gestions de files d'attente, et puis surtout le 11 septembre avec des contrôles de sécurité de plus en plus importants, la crise Covid avec des exigences sanitaires de plus en plus importantes. Et donc aujourd'hui, nous savons que l'expérience dans un aéroport pour un passager est potentiellement handicapée par une mauvaise orientation, une mauvaise propreté,
des formalités,
etc.
Donc, à la douane ou ailleurs.
Donc, le métier de l'aéroport s'est progressivement transformé dans deux directions. La première direction a consisté à développer des revenus accessoires, parce qu'il faut bien pouvoir rémunérer les capitaux que nous confient les investisseurs.
Donc, ça, c'est donc, l'ensemble des boutiques.
Nous avons développé l'immobilier et les boutiques. Et puis, deuxièmement, il s'agit aussi d'être au cœur de notre métier d'hospitalité, c'est-à-dire en permanence de se demander ce que nous pouvons faire pour que l'expérience des passagers soit la meilleure possible.
Alors ça, c'est votre métier, le groupe. Donc je disais Orly, Roissy, Le Bourget, mais en réalité, il y a beaucoup d'autres aéroports, des aérodromes en région parisienne, en Île-de-France. Mais dans le monde, vous avez un certain nombre d'aéroports.
Exactement. Nous gérons 27 aéroports dans le monde et nous avons une présence dans 150 aéroports via notre participation dans TAV Airport qui gère des duty-free, des lounges, etc.
Les plus grands aéroports que vous contrôlez dans le monde ou que
Alors,
vous gérez ?
Les plus grands aéroports que nous gérons en dehors de Paris sont l'aéroport de Delhi en Inde, l'aéroport de Santiago du Chili et puis nous gérons Amman en Jordanie, Antalya, en Turquie, qui est un des très gros aéroports d'Europe, hein, avec 50 millions.
C'est un groupe qui se porte bien, qui a failli d'ailleurs être privatisé
exactement,
à une époque,
exactement.
Et finalement ça ne s'est pas fait.
Oui, alors c'est un groupe qui est coté en bourse, avec 51% détenu par l'État, et nous avons à cœur, avec l'ensemble de nos équipes, de gérer l'entreprise exactement comme si nous gérions l'argent de la veuve de Carpentras, c'est-à-dire avec la même rigueur que si nous étions 100% privés.
Alors, quand on parle des week-ends de l'été, bien évidemment, ce sont des week-ends de grand départ et de retour, y compris dans les aéroports. aéroport parisien. De quel trafic parle-t-on ces week-ends de l'été en ce moment ?
Alors ces week-ends de l'été, nous parlons d'environ 215 à 220 000 passagers à Charles de Gaulle, un peu plus de 105 000 passagers à Orly. C'est-à-dire que autant nous avons retrouvé le trafic de 2019 à Orly, autant à Charles de Gaulle, il reste encore un petit peu en deçà.
On sait pourquoi ?
Oui, principalement à cause des vols vers l'Asie. Et oui, puis aussi du fait que le Covid a handicapé l'offre des avionneurs. Mmh. Et donc les compagnies aériennes qui voudraient faire redémarrer le trafic à hauteur de la demande ne le peuvent pas toujours, faute d'avions. Notre premier client, Air France, par exemple, nous fait part de difficultés à obtenir la livraison des avions qu'il a commandés. Donc il y a un petit goulot d'étranglement à cet égard.
Et sur les touristes asiatiques qui manquent, ce sont les touristes chinois qui ne viennent plus. Ils n'ont pas le droit de sortir ou c'est qu'il n'y a pas suffisamment de vols pour assurer le trafic ?
La principale raison est que la connectivité avec la Chine est extrêmement diminuée par rapport à avant Covid, pour une multitude de raisons qui seraient trop longues de développer.
Parce qu'on ne peut notamment plus passer au sud de la Russie.
Je pense que la vraie raison, c'est le manque d'avions. Ouais. Mais il est vrai qu'aussi, le fait qu'on doive faire 3 heures de vol supplémentaires pour les compagnies européennes, parce que les compagnies européennes ne peuvent pas survoler la Russie, alors que les compagnies chinoises le peuvent. Donc il y a un petit désavantage de compétitivité pour les compagnies européennes.
Quand on évoque le trafic aérien, ça fait combien d'avions qui atterrissent chaque jour ou qui décollent chaque jour des aéroports parisiens ?
Alors, à Charles de Gaulle, nous avons environ 1500 mouvements. À Orly, environ 600 mouvements.
Et ça concerne quelle proportion des Français qui prennent l'avion ? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais quelle est la proportion des Français qui, chaque année, prennent l'avion et cet été, prennent l'avion ?
On a environ une dizaine de pourcents de Français qui prennent l'avion plusieurs fois par an. Une autre dizaine de pourcents qui le prennent une fois par an. Donc ça fait 20% qui le prennent, on va dire, au minimum une fois par an. Et puis le reste le prend plus rarement.
Quelles sont les tendances, les grandes tendances de l'évolution du trafic aérien ? Alors, on a l'impression que c'est une pente qui continue de monter. On a, au niveau mondial, pas tout à fait, je crois, retrouvé le niveau de 2019, mais on s'en rapproche quand même beaucoup. Est-ce que on a franchi, je crois, le 6 juillet, c'est l'application Flight Radar 24 qui a évoqué ça la semaine dernière. Le 6 juillet, un record a été battu, 134 000 vols dans une journée. C'est absolument considérable.
C'est à la fois considérable et très très peu, puisque en fait il y a très peu d'habitants de la planète qui prennent l'avion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, très vite, j'ai estimé qu'il fallait être responsable et indiquer très clairement qu'il n'y avait aucune raison qu'on ne prêche pas la sobriété en matière aéronautique, tout comme on la prêche en matière de consommation d'énergie, ou même en matière de consommation alimentaire. Vous voyez sur les produits alimentaires tout préparés qu'il faut faire 10 000 pas par jour.
On va en parler beaucoup, voilà. On va en parler longuement, notamment avec Karim Adeli.
Il va y avoir une croissance très très forte de la demande de transport aérien de toutes les personnes qui aujourd'hui dans le monde n'ont jamais pris l'avion, c'est-à-dire les personnes pauvres, qui accèdent au statut de classe moyenne. Lorsque vous accédez au statut de classe moyenne, donc vous êtes en mesure de vous loger, de vous habiller, de vous nourrir, eh bien le besoin qui vient immédiatement après, c'est celui de découvrir le monde.
De se déplacer pour des raisons familiales ou autres.
Ou pour du tourisme ou pour des études. Donc la croissance du transport aérien va demeurer importante et c'est la raison pour laquelle nous sommes attentifs à pouvoir investir dans des aéroports qui se développent.
Est-ce que la tendance, la pente, l'évolution est à peu près la même dans chaque région du monde ou c'est l'Asie, une fois de plus,
l'évolution est beaucoup plus forte. L'évolution est beaucoup plus forte dans des régions à bas niveau de vie puisque dans la mesure où le niveau de vie des régions où il y a encore beaucoup de pauvreté, ça croît plus vite. Hein. La croissance en Inde, dans les 30 années qui viennent, devrait être de 7% par an. Vous vous dites, c'est incroyable. Mais en réalité,
c'est ce qu'on a connu nous dans les années 50 et 60.
Aujourd'hui, le PIB par habitant, c'est-à-dire que la richesse produite par habitant indien, est de seulement 2000 dollars. Si vous croissez de 7% par an, ça veut dire qu'en 10 ans, ça double. Donc dans 10 ans, ça sera de 4000 dollars. Dans 20 ans de 8 000 dollars et dans 30 ans de 16 000 dollars seulement. Alors qu'aujourd'hui, le PIB en Europe est de plus de 50 000 dollars par personne dans quasiment tous les pays. Donc, malgré une croissance très forte, il existe un gisement qui va durer de très longues années.
Est-ce qu'en Europe et aux États-Unis, dans les économies dites matures, c'est à peu près stable ou ça continue de progresser ?
Ça continue à progresser, mais modérément et probablement à un rythme qui sera légèrement inférieur au PIB.
D'accord. Est-ce que il y a une élasticité de la consommation de transport aérien au prix ? On sait que les prix ont beaucoup augmenté, ou ils ont augmenté ces derniers mois, pour des raisons à la fois le prix du kérosène, mais pour un certain nombre d'autres raisons. Est-ce qu'il y a une élasticité au prix, ou est-ce qu'en fait ça ne change pas grand-chose à la demande ?
Alors, en théorie, il y a ce qu'on appelle une élasticité. Alors, l'élasticité, ça signifie que quand les prix augmentent de 10%, eh bien, le trafic doit baisser de 5 ou 10%.
Et là, les prix ont augmenté de 23%.
On dit que l'élasticité est négative quand la consommation baisse, quand les prix augmentent, et qu'elle est positive dans le cas inverse. Là, on peut dire, de fait, que pour une courte période, on a une élasticité qui est égale à zéro. C'est-à-dire que, malgré une augmentation des prix qui est très élevée, on va dire au minimum de 20%, le trafic semble ne pas être affecté. La demande de trafic semble ne pas être affectée. Alors, je pense qu'il y a une tendance de court terme, qui est qu'il y a beaucoup de ce qu'on appelle les voyages de revanche. C'est-à-dire les voyages qui n'avaient pas été accomplis pendant le Covid pour aller voir ses amis, pour aller faire des affaires. Donc il y a un stock de voyages non accomplis qui se déverse, d'une part.
Tout le monde se lâche un peu après les deux années de Covid.
Mais d'autre part, le besoin de voyage est tellement important dans la vie des personnes qu'elles préfèrent faire des sacrifices sur la vie quotidienne et accepter de payer des prix plus élevés pour voyager.
Alors, il y a un événement important qui est arrivé cette année dans votre domaine, le domaine aérien. On va écouter le son. Il s'agit du lancement d'un nouveau modèle, d'un nouvel avion. On l'écoute.
Le vol MU-91-91 s'est posé ce dimanche en douceur, selon le communiqué de la compagnie China Eastern à l'aéroport international de Pékin, avec 130 passagers à son bord. Premier vol commercial réussi pour le C-919, un concurrent direct de l'Airbus A320, l'avion le plus vendu au monde. C'est le premier moyen courrier entièrement fabriqué par la Chine, à l'exception notable du moteur fourni par le groupe français Safran. Mais cela reste néanmoins un exploit.
Voilà, c'était un extrait d'un reportage diffusé sur France Inter il y a quelques semaines. Est-ce que ça va changer l'arrivée des Chinois sur ce marché ? Est-ce que ça va changer le duopole entre Airbus et Boeing ?
Dominique Seux, vous êtes un économiste. Poser la question, c'est y répondre. La réponse est oui. Bien sûr, quand vous avez un nouvel arrivant sur un marché, ça le « disrupte », entre guillemets. Alors moi, j'ai toujours cru à la vertu de la concurrence. Donc je pense que Airbus et Boeing sont suffisamment forts pour se remettre en question en permanence et conserver les parts éminentes qu'ils ont. Mais il est évident que cette demande extraordinaire de voyage aérien qui est exprimée par les pays émergents, elle va trouver aussi une réponse dans des avions en provenance de pays émergents aussi, construits dans des pays émergents.
Donc on peut s'attendre à ce que la part de marché des construits de Comac, le constructeur chinois, progresse assez rapidement.
Alors mécaniquement, la réponse est oui. Il demeure que toute la question va être de savoir quelle va être la taille du marché. Parce que si vous perdez un petit peu de part de marché dans un marché qui s'accroît beaucoup, votre position en valeur absolue ne bouge pas.
Le sens de ma question, c'était aussi, est-ce qu'un avion est tellement sophistiqué que les barrières technologiques à l'entrée sont très hautes à franchir.
Oui, les barrières technologiques sont très hautes à franchir, mais en matière d'intelligence artificielle, par exemple, les Chinois montrent qu'ils ne sont pas en retard.
On l'a vu aussi d'ailleurs sur les centrales nucléaires. Un dernier mot avant une pause musicale, comme on dit. Quelle est la place du secteur aérien dans l'économie française ? Alors, vous êtes un des acteurs, mais évidemment, il y a l'ensemble de la filière. Et c'est important d'avoir une idée avant qu'on commence à discuter de l'avenir du transport aérien dans le monde.
Je peux simplement dire que l'impact des aéroports parisiens est l'équivalent du produit intérieur brut, de la Lituanie ou du Ghana. On l'a estimé à environ 35 milliards d'euros par an. Donc, le transport aérien est un vecteur très important du tourisme, dont je vous rappelle qu'il représente 10% du PIB en France. Certains pays comme la Croatie ou la Grèce, c'est 25%. Donc, la connectivité aérienne qui permet le tourisme est souvent un élément totalement névralgique des économies des
pays. Alors, il y a la connectivité et puis, bien sûr, le constructeur, les sous-traitants, ça fait effectivement beaucoup de monde. Tout dernier petit point, est-ce qu'on peut s'attendre à craindre des grèves, soit du contrôle aérien, soit des bagagistes cet été ou pas ? Est-ce que vous rassurez les passagers actuels et futurs ?
Alors, je ne peux pas m'exprimer sur ce qui n'est pas de mon ressort, mais s'agissant des personnes qui travaillent sur les aéroports, qu'il s'agisse des assistants en escale, donc qui traitent les bagages, des compagnies aériennes ou des aéroports, je pense que le climat social est apaisé cet été.
Merci, voilà pour cette première partie. Dans un instant, vous allez donc débattre avec Karim Adeli, une pause musicale, et si vous êtes au volant, soyez prudents.
assis guère que sur mon cul. Ces souvenirs-là, je les ai tous vus.
C'était Benjamin Biolay, Les Lumières de la Ville.
France Inter. Dominique Seux. L'écho de l'été.
Et nous retrouvons pour cette seconde partie de l'écho de l'été, Augustin de Romanet, mais cette fois PDG d'Aéroport de Paris, mais cette fois avec Karim Adeli. Rebonjour.
Rebonjour.
Présidente de la commission transport du Parlement européen, écologiste. Avant que vous posiez, Karim Adeli, votre première question à Augustin de Romanet, peut-être une question toute simple. On sait ce que l'Europe souhaite et a organisé sur la voiture, notamment l'interdiction à partir de 2035 de la mise en vente de véhicules thermiques neufs. Honnêtement, on ne sait pas très très bien ce que souhaite et ce qu'a programmé le Parlement européen et la Commission européenne sur l'aviation.
Ah, c'est parce qu'on a mal écouté alors. Tout d'abord, on a une feuille de route qui est très claire. Chaque secteur, on est dans le Green Deal. On doit réduire de moins 55% ses gaz à effet de serre d'ici 2030 pour rentrer dans la neutralité carbone. La grande nouvelle, c'est que pour la première fois, l'Union européenne fixe une feuille de route de décarbonation du transport aérien, en particulier en introduisant ce qu'on appelle des carburants alternatifs. Ça veut dire quoi concrètement? C'est des carburants qui ne seront plus issus du kérosène. Donc ça, ce sont des filières. On a un échéancier, on va commencer par 6% jusqu'à atteindre, jusqu'en 2050, 60%. Vous allez me dire, oui Madame Deli, on ne rentre pas dans la neutralité carbone à 60%. Vous avez raison. C'est la raison pour laquelle...
Vous faites les questions et les réponses, c'est formidable alors.
Non, mais parce qu'il y a d'autres textes. Donc ça, c'est un texte général. Il y a d'autres textes en cours qui, moi, me semble très, très important. C'est ce qu'on appelle, je suis désolée pour la technicité des mots, mais le ciel unique européen, c'est-à-dire qu'on va optimiser l'ensemble des flux, on aura des trajets beaucoup plus directs. En ce moment, c'est une vraie galère parce que des États membres, notamment la France, il faut le dire, qui sont un peu en train de rechigner pour pas laisser leurs compétences au niveau européen, mais on va y arriver parce que ça nous permet de réduire d'au moins 10% des émissions de CO2 dans l'aviation, donc ce qui est une nouveauté. Et ensuite, il y a des nouveautés un peu partout et des initiatives qui sont en train de regarder d'être très près, notamment dans les aéroports, où certains décident, par exemple, de limiter le nombre de vols, comme à Schiphol, où on voit que, par exemple, des aéroports décident de rentrer dans une nouvelle trajectoire énergétique et écologique.
Donc il y a tout un projet. Quelle est la part des émissions du transport aérien dans les émissions globales de l'Europe, les émissions de gaz à effet de serre?
Alors souvent, d'abord, on parle au niveau mondial, parce qu'au fait, les vols sont quand même des vols internationaux. On dit souvent, alors l'aviation, c'est 2,5%. Alors on dit, oh, c'est pas beaucoup, mais il faut regarder aussi l'ensemble global de l'impact, dont notamment les non-CO2. Et les non-CO2, c'est, vous savez, ces petits aires de condensation, ces petites traînées comme ça qu'on voit de temps en temps. Et quand on regarde l'impact global, l'aviation, c'est entre 5 et 6% au niveau mondial. Et en France, le taux au niveau de l'aviation, c'est quand même 7%. Donc, c'est pas négligeable. Et je le redis, tous les secteurs, et notamment ce secteur de l'aviation, doit rentrer dans la transition. Parce qu'il y a urgence.
Vous êtes d'accord avec ces chiffres qui viennent d'être donnés? 7% en France, les émissions de gaz à effet de serre de l'aviation?
Si on additionne tout, c'est-à-dire le CO2 émis lors de la construction des avions, lors du roulage des voitures qui se rendent à l'aéroport, etc., ce chiffre me paraît plausible, bien sûr.
C'est un chiffre qu'on n'a pas forcément en tête, mais effectivement, si on met les voitures qui roulent pour l'aéroport, c'est vrai que c'est beaucoup.
Oui, mais si je vous dis que ces chiffres sont exacts, c'est parce que nous partageons avec Karim Adeli, à laquelle je rends hommage, parce qu'en tant que présidente de la commission transport du Parlement européen, elle maîtrise parfaitement ces questions et elle pourrait être membre d'honneur de la communauté aéroportuaire. C'est justement parce que ces chiffres sont importants que nous avons engagé une démarche de zéro émission nette au sol à Orly en 2030, ce qui va nous obliger, par exemple, à aussi traiter l'arrivée en automobile. Parce que les voitures qui arrivent, et je dis à tous nos auditeurs qui ont des embouteillages quand ils arrivent à Orly, que cet aéroport construit en 1961 n'avait pas été fait pour les dizaines de millions d'automobiles qui arrivent tous les ans aujourd'hui. Donc nous sommes en train de repenser totalement l'accès à l'aéroport comme un des éléments de la décarbonation.
Karim Adeli, votre première question à Augustin de Romanet.
Alors, Augustin de Romanet, merci d'être là et je voudrais vous rendre hommage. Parce que vous êtes un des rares personnages dans l'aviation qui reconnaît ce mot qu'on appelle « il faut rentrer dans la sobriété de l'aviation ». Alors c'est un mot qui est un petit peu nouveau, parce que dans ce secteur qui est un petit peu difficile, je peux vous le dire, à la tête de la commission de transport, à secouer et à rentrer dans la transition, je voudrais vous demander, qu'est-ce que vous appelez, vous, la sobriété de l'aviation ?
Alors, la sobriété de l'aviation, ça consiste simplement à se dire la chose suivante. Nous ne pouvons pas rester sur les mêmes taux de croissance de l'aviation dans les pays développés. Or, ce taux de croissance dans les pays développés, il pourrait se poursuivre si, par exemple, profitant de la hausse du niveau de vie dans ces pays développés, de plus en plus de personnes décidaient, par exemple, de passer leur week-end en utilisant l'avion. Et c'est vrai qu'au fond, j'y réfléchis souvent quand je pense que Orly va être très accessible en 2024 grâce à la ligne 14 du Grand Paris qui va mettre cet aéroport à 25 minutes de la Madeleine. Si vous prenez votre agenda le vendredi après-midi et que vous vous dites « est-ce que je vais aller à Cabourg et louer une voiture ou à Marrakech et prendre un avion ?» ça coûte moins cher d'aller à Marrakech. Et donc, il faut se dire que faire des allers-retours en avion pour des très courts week-ends, pour des courtes distances, ou alors aller à l'autre bout du monde, 4 fois par an en long courrier, c'est peut-être, dans la mesure où on a le recul pour s'auto-limiter, une bonne démarche. Alors, qu'on plafonne le transport aérien, ça me paraît une hérésie. Qu'on interdise aux gens, ça me paraît une hérésie. On leur interdit pas de prendre des steaks, on leur donne pas un quota de vêtements, parce que c'est vêtements, etc.
Alors, il faut mettre en revanche, pour les auditeurs qui nous écoutent ce soir, Jean-Marc Jancovici a fait un petit peu de bruit en proposant, ou en faisant un calcul de quanta, mais un calcul tout de même, il faut que chaque humain prenne 4 fois l'avion dans sa vie.
Voilà. En plus. Donc, j'avais été très frappé quand, en 2019, j'avais interrogé des avionneurs sur le thème « Pourquoi le monde aérien a-t-il pris autant de retard dans la décarbonation ?» Un industriel m'avait répondu « Jusqu'en 2019, le transport aérien pensait que la dernière goutte de kérosène serait pour lui. Donc, on va dire qu'il y avait eu jusqu'en 2019, un peu, vous savez, c'est un monde qui est dans les airs, hein, qui plane un peu. Il y avait un peu ce sentiment que le transport aérien pouvait s'exonérer des contraintes des autres mondes. Et je pense que la réalité,
c'est plus le cas.
Ça n'est plus du tout le cas. Je pense qu'il y a une prise de conscience générale. On l'a bien vu au Salon du Bourget, d'ailleurs. Il n'y a aucun cynisme. Aujourd'hui, tous les chercheurs, tous les constructeurs d'avions, de moteurs, etc., sont mobilisés pour la décarbonation.
Alors, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut décarboner. Alors, moi aussi, j'étais au Bourget et j'étais contente de vous revoir. Mais tout le monde est en train de dire décarboner, mais tout le monde est pour plus de croissance. Et notamment des flux. Et ça, ce n'est pas possible. Donc, ma question, c'est que beaucoup ont l'objectif de doubler le nombre de flux, mais techniquement, je peux vous dire, la planète ne te le permet pas. Donc, ma question, elle est simple, puisque aujourd'hui, on vend même de très gros avions à l'Inde. L'Inde, qui est un pays où il n'y a que 5% de la population, donc ils sont 1,4 milliard, et il n'y a que 5% qui prend l'avion. Le but, tout à l'heure, vous avez dit, mais attendez, nous, même si le prix augmente, les gens vont continuer à prendre l'avion. Alors d'abord, premier constat, 80% de la population mondiale n'ont jamais pris l'avion. Quand je regarde qui sont ces gens qui prennent l'avion, c'est toujours ceux qui ont les moyens. Mais même si vous faites des prix un peu bas, parce que le prix restera quand même un élément important, je prends un exemple, un billet d'avion, même s'il est très bas, une famille RSA, quand elle sort de l'avion, elle va devoir payer son hôtel, des activités pour les enfants, etc. Donc on voit bien que là, les populations ne sont pas les mêmes. Donc ma véritable question, elle est-ce qu'on va réellement, tous ensemble, prendre à bras le corps cette question de croissance des flux et se dire, à un moment, ce n'est pas possible de doubler l'ensemble des flux, parce qu'on ne va pas y arriver, ni pour la planète, ni pour la filière, parce que même la technologie, et vous l'avez un petit peu abordé tout à l'heure, ne nous le permettra pas.
Et la réponse qu'on attend, c'est comment vous mettez en cohérence votre discours qui est effectivement atypique sur la sobriété, qui est atypique par rapport, et la réalité de votre action à la tête d'Aéroports de Paris.
Alors, il s'agit d'un débat politique, mais je ne vais pas l'évacuer. À Aix-en-Provence, il y a quelques jours, je disais que pour avoir des politiques de long terme...
Aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence.
Voilà, dans un panel sur réintroduire la vision long terme dans les politiques, j'indiquais qu'il fallait des constats partagés. Et c'est là où je crois que il faut rendre hommage à tous ceux qui travaillent sur le constat partagé des enjeux de la décarbonation. Et moi, je crois aux mathématiques. Et si, effectivement, nous devons nous rendre compte que la tendance sur laquelle le transport aérien évolue interdit toute perspective de zéro émission nette en 2050, il faudra prendre des mesures. Et les mesures, je souhaite qu'elles soient le plus possible incitatives. Mais quand je dis, par exemple, que je recommande de ne pas aller tous les week-ends dans un pays du sud de la Méditerranée en avion, je commence déjà à rentrer dans l'incitation. Alors, évidemment, ce serait une tragédie qu'on soit dans la coercition et dans l'obligation. Mais je ne veux pas fuir...
Ça ne vous paraît pas exclu dans les années qui viennent au niveau européen ?
Si vous voulez, moi j'ai toujours été impressionné par le fait que notre génération, enfin plutôt les 12 générations qui sont nées depuis 1850, ont, entre guillemets, boulotté tout le pétrole qui avait mis des dizaines de millions d'années à se créer. Donc, ce qui s'est passé depuis 1850 est un phénomène qui est, à l'échelle de l'humanité, une bombe. La bombe de l'émission dans l'atmosphère d'un pétrole qui a été extrêmement abondant et qui n'a été exploité de façon industrielle que depuis 1850. Et donc, les conséquences de cette bombe, entre guillemets, c'est qu'il va falloir changer de modèle. Donc, je crois que le changement de modèle, pour qu'il soit aussi intelligent que possible, il doit se faire sur la responsabilité. Mais le jour où la responsabilité ne suffit pas, eh bien, malheureusement, on en arrive à des choses qui sont plus douloureuses.
Ça veut dire, Karim Adeli, qu'il faudra, parce qu'il n'y a pas 1000 leviers possibles. Est-ce que c'est jouer sur les prix, c'est jouer sur les taxes, ou c'est jouer sur une limitation du nombre de décollages par aéroport ? Quelle est la proposition que fait la Commission des Transports du Parlement européen ?
C'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir travailler, sur la question des taxes. Moi, je pense aussi que cette taxe kérosène qui n'existe toujours pas est un véritable leurre. Parce que vous demandez à monsieur et madame Michu, lorsqu'il va notamment faire son plein, il y a des taxes. Alors que la taxe kérosène pourrait, une partie, aller notamment dans la filière qu'on pourrait notamment développer sur une véritable volonté, notamment d'une filière sur les SAF. Et en plus, on est confronté à un nouveau risque.
On a compris, donc il faut inverser vraiment le type de raisonnement. Je voudrais vous faire entendre un son, comme on dit, de Guillaume Faury, le patron d'Airbus, et vous allez réagir.
Limiter le nombre de vols, c'est ignorer quelques réalités simples. Si vous allez de Paris à Toulouse, et l'avion n'est pas fait pour ça, mais on peut aussi aller de Paris à Toulouse en avion, la consommation d'un passager par 100 km, c'est à peu près 2 litres au 100. Si vous y allez en voiture, vous êtes avec 6 ou 7 litres au 100, donc vous consommez beaucoup beaucoup plus à faire votre trajet en voiture qu'à le faire en avion. Donc mettre une sanction sur l'avion en disant « Ah là là, il faut pas prendre l'avion », c'est ignorer des choses assez simples.
Comment vous réagissez quand vous entendez ça? Alors, c'est un de vos clients à dire.
Oui, non, alors moi j'ai deux réactions. La première, c'est que factuellement, ce que dit Guillaume Faury est parfaitement exact. Et la deuxième, c'est que s'il y a bien un industriel qui est incroyablement engagé pour la décarbonation et qui prend des risques, y compris des risques personnels pour son entreprise, c'est Guillaume Faury. Songez que c'est le seul grand industriel dans le domaine de l'aviation qui croit à la disruption de l'avion à hydrogène. C'est un enjeu industriel énorme, ça va nécessiter une certaine prise de risque et Guillaume Faury prend ses risques. Donc, je dirais deux réactions. La première, c'est que factuellement, ce qu'il dit est juste. Et la deuxième, c'est que je rends hommage à son esprit d'entreprise.
Alors moi, je lui dis, il y a une autre alternative, c'est le train. Hein. C'est 14 fois moins d'émissions de CO2. Donc, la véritable, vrai enjeu dans le futur, c'est la combinaison entre le train et l'aviation. Deux secteurs qui sont un petit peu des frères ennemis, qu'il faut réconcilier très vite.
Alors, c'est 5 heures hein, pour aller à Toulouse en train.
Oui.
C'est long.
Bah, c'est pas très long, hein. C'est pas 28 heures. Autrement, je vous mets un train de nuit, monsieur Dominique, parce que c'est encore la grande nouveauté aussi au niveau européen, puisqu'on est en train de les relancer partout de capitale à capitale. Pour vous dire également, donc, ces deux secteurs, et c'est là où ça va être très très important dans les années à venir, il y a énormément de lignes de vol qui seront remplacées par des alternatives. On a vu que les vols concernant notamment 2h30, c'est un petit peu une goutte d'eau dans un océan de misère, puisqu'on voit bien que même ces vols court-courrier ont été remplacés par des vols long-courrier. Maintenant, la véritable question, c'est à partir de 4 heures. Est-ce qu'on va mettre en place la fameuse mesure de la Convention citoyenne? Et ça, j'aimerais bien entendre M. Augustin Romanet sur les alternatives, notamment comment vous allez travailler, j'espère plus sur 2h30, mais sur 4 heures, avec les compagnies ferroviaires.
Deux réponses, Karima. La première, c'est que l'intermodalité est au cœur de notre stratégie. Nous voulons faire venir les personnes à Charles de Gaulle pour le hub international en train le plus possible. Et je n'ai pas rappelé toutes les mesures que nous prenons, que nous promeuvons, nous rénovons la gare. Donc nous sommes des militants de l'intermodalité. Et pour vous répondre, nous nous sommes, je crois, réconciliés avec la SNCF, même si, malheureusement, quand je prends le train, j'entends encore trop souvent « prenez le train plutôt que l'avion ». Les transporteurs aériens sont des gros méchants. Bon, ça, je le regrette, mais j'espère que ça va bientôt cesser. Mais c'est des symboles qui rendent malheureux les Bordelais, pardon, parce qu'en réalité, il y a beaucoup de personnes à Bordeaux, notamment au sud de Bordeaux, qui mettent un temps fou pour accéder à la gare et qui ensuite, s'ils veulent aller en avion à Paris, doivent arriver à Charles de Gaulle. Et quand vous arrivez à Charles de Gaulle le matin, comme nous n'avons pas encore le CDG Express, il faut 1h30 pour aller au centre de Paris en voiture. Donc, non, je crois que c'est... Voilà, je ne veux pas épiloguer.
Non, mais pour répondre à Dominique Seux, parce qu'il dit « Oh là là, c'est 5 heures, machin, etc. » Mais vous arrivez dans le centre-ville. Et donc, ça veut dire que vous n'avez pas le temps d'enregistrement, pas le temps d'attendre, blablabla. Donc, vous êtes gagnant,
Dominique Seux. Le train, c'est
l'avenir.
De toute façon, nos compatriotes votent avec leurs pieds. Il suffit de regarder ce qui se passe aujourd'hui sur Paris-Marseille. Hein. La ligne Paris-Marseille, qui doit faire de mémoire environ 3h30, 3h40 en TGV, est aujourd'hui plébiscitée par les passagers, ce qui pose d'ailleurs un problème économique à la compagnie Air France, puisque la ligne Paris-Marseille commence à être vidée de ses passagers.
Est-ce que l'aéroport néerlandais de Schiphol n'a pas finalement pris des mesures un peu plus radicales que vous, Corrassi?
Pas du tout. Schiphol, en fait, c'est un aéroport en ville. Donc Schiphol n'a fait que, 30 ans après, copier ce que fait Orly.
En limitant Orly le nombre de décollages.
Mais bien sûr, Orly est plafonné aujourd'hui avec 250 000
vols. Donc ils ne l'ont pas fait pour des raisons climatiques, dites-vous?
Je ne pense pas. Je pense qu'ils ont un plafond qui est quasiment 80% au-dessus de celui d'Orly. Pourtant, c'est un aéroport de ville. Donc Schiphol a fait avec 30 ans de retard ce que Paris avait fait. Et par ailleurs, les jets privés interdits à Schiphol, c'est une farce. Parce qu'en réalité, ils vont atterrir à 40 minutes de là, dans l'aéroport de Lelystad, comme au Bourget, en Ile-de-France.
Une question sur ces jets privés, alors, est-ce qu'il n'est pas temps, même moralement, nous devons avoir un devoir moral pourquoi, justement, il n'y a pas de réglementation claire.
Il y a une très bonne nouvelle. Les jets privés vont être les premiers à être décarbonés. Prenez, par exemple, la société Beyond Aero, qui est une start-up qui propose, en 2029, un jet qui aura 1600 km de rayon d'action à 570 à l'heure, en totalement électrique. À pile à combustible, totalement à hydrogène. Donc, je vous fais le pari, on tient le pari, Karima, que le premier secteur à être totalement décarboné, ce sera les jets privés. Aujourd'hui même, au Bourget, nous fournissons du jet fuel avec 30% de biocarburant. Nous avons augmenté de 300% nos ventes de jet fuel. Total a aujourd'hui 10 clients au Bourget pour produire des jet fuel.
Vous dites au pouvoir public, au débat public, au lieu de se focaliser sur une interdiction éventuelle, ce serait plus efficace de forcer ou de fixer un objectif qui est une décarbonation totale à l'horizon 2026, 2028, 2030.
Ça fait partie des très bonnes pistes, Dominique.
Oui, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Parce que quand vous regardez l'ensemble des vols les plus prisés par les jets, c'est quand même des liaisons Paris-Londres, Londres-Genève, etc. Et on voit qu'il y a les alternatives ferroviaires. Donc, à un moment, si on veut être vraiment crédible, mais surtout en termes moral, comment on peut laisser justement ce genre de... Des personnalités un peu comme ça, un peu plus riches que les autres. Aujourd'hui, on n'a pas les jets zéro émission, ça n'existe pas. Mais eux dépensent plus en termes d'émissions que les autres. Donc à un moment, je crois qu'il faut être honnête avec nous-mêmes et se dire, il y a véritablement un devoir de solidarité vis-à-vis de ceux qui n'ont pas ce moyen et donc de prendre des réelles mesures.
Et ce sera votre dernière réponse, Augustin Romanet. Nous arrivons au terme de cette émission. Votre dernière réponse, à nouveau sur les jets privés.
Qui m'attriste un peu parce que j'aimerais bien être toujours d'accord avec Karim Adeli, mais là je ne suis pas du tout d'accord. Je pense que mélanger les questions d'inégalité, de lutte contre les inégalités avec des questions techniques et factuelles est toujours un peu compliqué, donc je ne veux pas m'engager dans ce débat.
Merci, voilà, c'est la fin de cet écho de l'été qui est passé plus vite encore qu'on le pensait. Merci à vous deux. Merci à notre réalisateur Stéphane Combe, à la technique Maxime Goudard, à la recherche de son Laura Dumez et Jean-Baptiste Audibert. À la semaine prochaine. Et vous pouvez retrouver naturellement cette émission et celles qui l'ont précédée sur le site de France Inter à L'écho de l'été. Bonsoir.